de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Et vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal d'aujourd'hui, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bonjour, Joïtar. Nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
C'est Zerita, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le Parlement européen demande qu'il n'y ait pas de nouvelles voitures à combustible fossile en 2035. Les travailleurs des deux aéroports parisiens se mettent en grève pour exiger des augmentations de salaire. L'Indonésie et les Pays-Bas établissent une coopération en matière de prévention du terrorisme. La conférence CEASIA renforce la collaboration entre les pays. BNN coopère avec des pays d'Amérique du Sud pour empêcher la circulation de la cocaïne. Le gouvernement mène officiellement l'essai clinique du vaccin de troisième étape de BUMN. L'Indonésie accélère la transformation numérique dans quatre secteurs. Voici le journal complet. Le Parlement européen a convenu lors d'un vote mercredi dernier au local de soutenir la proposition de la Commission visant à atteindre une mobilité zéro émission en 2035, tant pour les voitures particulières que pour les véhicules utilitaires légers. Cela signifie que si la proposition est approuvée par les États membres de l'Union européenne, à partir de 2035, les nouvelles voitures à carburant fossile ne seront plus autorisées à circuler dans cette région. C'est ce qu'a rapporté Reuters. Lors du vote en plénière de mercredi, les législateurs ont adopté leur position sur les règles proposées pour réviser les normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les nouvelles voitures et camionnettes avec 339 voix pour 249 contre et 24 abstentions. Les travailleurs des deux aéroports de Paris, à savoir Roissy, Charles de Gaulle et Orly, se sont mis en grève mercredi et jeudi, les 8 et 9 juin, pour exiger une augmentation de salaire. C'est ce qu'a annoncé l'autorité des aéroports de Paris, cité par Reuters. Les aéroports de Paris ont conseillé mercredi aux passagers d'être à l'aéroport plus tôt pour anticiper le temps d'attente plus long en ligne. Les aéroports de Paris ont également annoncé qu'un quart des vols réguliers ont été annulés jeudi. Les passagers sont également priés de vérifier leur horaire de vol auprès de la compagnie aérienne. L'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, BNPT, représente le gouvernement indonésien dans sa coopération avec les Pays-Bas dans les efforts de prévention du terrorisme par le biais d'une réunion de consultation bilatérale à Amsterdam. Le chef de BNPT, Boy Rafi Amar, dans une déclaration écrite reçue à Jakarta, a déclaré jeudi que l'un des éléments centraux de cette réunion est l'échange de données et d'informations ainsi que les activités des deux pays. Les deux pays ont discuté de l'évaluation de la menace terroriste au niveau national, régional et mondial, y compris les priorités nationales dans les efforts de prévention et de lutte contre le terrorisme. Ils ont également discuté de la question des combattants terroristes étrangers, FTF, de la réhabilitation et de la réintégration, de la lutte contre l'utilisation abusive d'Internet par les groupes terroristes et des efforts de lutte contre le financement du terrorisme. La délégation néerlandaise, représentée par le coordinateur adjoint national pour la lutte contre le terrorisme et la sécurité, NCTV, et le directeur de la cybersécurité et des menaces d'État, Esther Somsen, a déclaré que la réunion était une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les deux pays, en particulier les efforts de lutte contre le terrorisme. La 4e conférence biennale des études sur l'Asie du Sud-Est en Asie, CASIA, en 2022, renforcera la collaboration entre les pays pour créer un monde meilleur après la COVID-19. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, Nadim Anwar Makarim, lors de l'ouverture de la conférence qui a été suivie virtuellement jeudi. Il espère que cette réunion pourra produire une étude critique et compréhensive. La conférence biennale CASIA est organisée par le Consortium pour les études sur l'Asie du Sud-Est en Asie, ou CASIA, qui se compose de 13 établissements d'enseignement et de recherche de premier plan dans la région asiatique. La 4e conférence CASIA, qui aura lieu du 9 au 11 juin 2022 à Jakarta, sur le thème « Gérer les perturbations, développer la résilience pour une meilleure Asie du Sud-Est ». Cette conférence a été organisée par l'Organisation de recherche en sciences humaines et sociales de l'Agence nationale de la recherche et l'innovation, BRAN. L'Agence nationale des stupéfiants de la République d'Indonésie, BNNRI, collabore avec un certain nombre de pays d'Amérique du Sud pour empêcher l'entrée de cocaïne et la circulation d'autres stupéfiants en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le chef de BNN, Petrus Reinhard Goloz, au bureau de BNN au nord de Jakarta jeudi. Goloz a expliqué que la coopération cible les zones autour de Golden Peacock, ou celles situées le long de la cordillère des Andes. Le chef de BNN de la République d'Indonésie a souligné, bien que la circulation de la cocaïne ait eu lieu dans les Amériques, il était possible que l'Indonésie devienne l'un des pays destinataires de la circulation. De plus, il y a eu une augmentation des consommateurs de stupéfiants de 0,15% en Indonésie depuis que la pandémie de COVID-19 a frappé. BNN a établi une coopération avec le Panama et l'Équateur. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de la Société pharmaceutique publique Bio Farma Persero Société Anonyme, a officiellement annoncé jeudi la troisième phase de l'essai clinique du vaccin COVID-19 produit dans le pays, nommé le vaccin des entreprises appartenant à l'État, BUMN. L'annonce a été transmise par le président directeur de Bio Farma, Honesty Bashir, lors de l'événement kick-off de l'essai clinique du vaccin de la troisième phase de BUMN à Jakarta. L'essai clinique de troisième phase du vaccin BUMN sera administré à 4050 sujets avec une limite d'âge de 18 ans à 70 ans. Honesty a déclaré que si l'essai clinique se déroule bien et obtient une autorisation d'utilisation d'urgence, Bio Farma produira le vaccin en juillet 2022. Pendant ce temps, le chef de l'Agence de surveillance des aliments et des médicaments, BPOM, Penny Lukito, a déclaré que la recherche sur le vaccin BUMN avait été obtenue de l'étranger, mais que son développement en un vaccin répondant à de nombreux normes de produits commerciaux avait été réalisé en Indonésie à partir du stade préclinique, l'essai clinique de première phase, l'essai clinique de deuxième phase et l'essai clinique de phase finale. Le gouvernement indonésien s'efforce à accélérer le programme national de transformation numérique à travers 4 secteurs stratégiques lors de l'événement de table ronde sur le développement numérique Partner to Connect ou P2C, cité dans un communiqué de presse jeudi. Ces 4 secteurs stratégiques sont les infrastructures numériques, la gouvernance numérique, l'économie numérique et la société numérique. La table ronde sur le développement numérique Partner to Connect ou P2C se tient en marge de la Conférence mondiale de développement des télécommunications CMDT qui se tient du 6 au 16 juin 2022 à Kigali au Rwanda. Ce forum est une réunion des responsables ministériels ou de haut rang du secteur des télécommunications et des responsables des technologies de l'information et de la communication du secteur privé. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « L'ONU accuse Israël de provoquer des violences en Palestine ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, un rapport publié par la Commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est et Israël. Mardi dernier, 7 juin 2022, a déclaré que mettre fin à l'occupation israélienne des terres palestiniennes est très important pour mettre fin à la violence. Le rapport sera présenté lors de la 5e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui s'ouvrira la semaine prochaine à Genève. Une équipe d'enquêteurs a été nommée l'année dernière par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour rechercher les causes profondes du conflit qui dure depuis une décennie dans la région. L'équipe a catégoriquement cité l'occupation continue par Israël des territoires palestiniens et la discrimination contre les peuples palestiniens comme les principales causes de la violence israélo-palestinienne répétée et de l'instabilité dans la région. Selon l'enquêteur principal, Navanethem Pillay, qui est également ancien chef des affaires des droits de l'homme de l'ONU, ce que fait Israël est un indicateur de la nature asymétrique du conflit et de la réalité d'un État qui en occupe un autre. L'équipe d'enquête a également conclu qu'il y avait des prévus suggérant qu'Israël n'avait pas l'intention de mettre fin à son occupation. En fait, la discrimination contre le peuple palestinien continue également de se perpétuer. Pillay a déclaré que son équipe avait constaté que les recommandations faites précédemment n'étaient grossièrement pas mises en œuvre par les parties belligérantes, y compris les appels à garantir la responsabilité des violations par Israël du droit international humanitaire et des droits de l'homme. D'autre part, Tim a également mentionné les tirs aveugles de roquettes par des groupes armés palestiniens sur Israël. Quelle est la réaction d'Israël au contenu du rapport? En tant que pays accusé, Israël a certainement rejeté le contenu du rapport soumis par les enquêteurs de l'ONU. Israël a même dénoncé le rapport et qualifié le rapport de 18 pages de colonie d'Israël, tout en ignorant le terrorisme palestinien et la violence visant les Israéliens. Mais quelle que soit la défense faite par Israël, les actions menées depuis des décennies contre la Palestine contredisent clairement la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, en particulier l'article 3 qui garantit le droit à la vie pour tous. Le monde espère que le rapport soumis par l'équipe d'enquête pourra être suivi afin de mettre un terme au conflit israélo-palestinien prolongé. Bon, cher Jolitard, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 10 juin. Le 10 juin 1947, la signature de l'accord d'amitié entre l'Indonésie et l'Égypte. Les gouvernements indonésiens et égyptiens ont signé un accord d'amitié. La signature a été effectuée après que la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie a été reprise par Soekarno le 17 août 1945. L'Égypte a été le premier pays à reconnaître l'indépendance de la République d'Indonésie. Le soutien de l'Égypte à l'indépendance de l'Indonésie s'est manifesté lorsque le consul général égyptien Mohamed Abdel Mouim est venu à Yogyakarta du 13 au 16 mars 1947 dans le but de transmettre un message de la Ligue arabe qui soutenait l'indépendance de l'Indonésie. La Ligue arabe est une organisation composée des pays arabes. L'Égypte a officiellement reconnu l'indépendance de l'Indonésie le 22 mars 1947. Après cette reconnaissance, l'Égypte et l'Indonésie ont finalement signé un accord d'amitié le 10 juin 1947. Le 10 juin 1980 était l'anniversaire de l'ancien joueur de l'équipe nationale indonésienne de football, Bambang Pamungkas. Il est connu sous le nom de BP. La première apparition de Bambang avec l'équipe nationale indonésienne senior a eu lieu le 2 juillet 1999 lors d'un match amical contre la Lituanie. Son poste naturel est attaquant. Bambang Pamungkas est de plus en plus reconnu dans le football d'Asie du Sud-Est lorsqu'il a marqué le seul but de l'Indonésie lors du match de demi-finale contre la Malaisie lors de la Tiger Cup 2002. Et actuellement, Bambang est le détenteur du record de plus grand nombre d'apparitions et le meilleur buteur de l'Indonésie avec 77 apparitions et 36 buts selon les matchs de catégorie A de la FIFA. Le 10 juin 2009, l'inauguration du pont national de Suramadu. Le pont national de Suramadu est un pont qui traverse le détroit de Madura, reliant Surabaya sur l'île de Java à l'île de Madura. Suramadu est l'acronyme de Surabaya Madura. La pose de la première pierre pour la construction du pont de Suramadu a été réalisée par le président Megawati Sukarnoputri le 20 août 2003. Le président Susilo Bambang Yudhoyono a inauguré son ouverture le 10 juin 2009. La construction de ce pont vise à accélérer le développement de l'île de Madura, couvrant l'infrastructure et l'économie de Madura, qui est relativement en retard par rapport à d'autres régions de la province de Java orientale. Le pont de 5438 mètres de long a été construit en 6 ans et a dépensé 4,5 millions de roupies. Suramadu est aujourd'hui le plus long pont d'Indonésie. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Bersama diri ini berbunga. selamanya hingga akhir hidup kita. Indahnya dunia kita berdua, semoga selamanya Tuhan kau jaga. Ku harap tak akan ada dusta, biar bumi kan jadi saksi. Indahnya dunia kita berdua, semoga selamanya Tuhan kau jaga. Ku harap tak akan ada dusta, biar bumi kan jadi saksi.
Bahagialah bersama kisah kita selamanya.
La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international Voice of Indonesia VOI 2022. 8 gagnants recevront des prix étriens de chaque service linguistique. Préparez-vous. Vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de la Voix de l'Indonésie, Voice of Indonesia. Voilà, chers auditeurs, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la Voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Cinquième l'antenne pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie et pour le titre... Le gouvernement poursuivra la construction des infrastructures de connectivité en 2023. Le ministère des Transports s'est engagé à poursuivre le programme de développement des infrastructures de connectivité dans toute l'Indonésie en 2023. Bien sûr, le développement d'infrastructures de connectivité qui est productif et soutient la croissance économique régionale a un impact direct sur la communauté. Ceci cas de carré, le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, lors d'une réunion de travail avec la Commission 5 de DPR RI à Jakarta, mardi 7 juin, cité par la page Antara. Le ministre Budi Karya a également déclaré que le plan de travail du gouvernement en 2023 a pour thème l'augmentation de la productivité pour une transformation économique inclusive et durable. Dans ce cas, le ministère des Transports contribue également à un certain nombre de priorités nationales. L'agenda comprend l'accélération du développement des infrastructures de base, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, le développement bas carbone et la transition énergétique, ainsi que le développement de la capitale nationale IKN de l'archipel. En 2023, le ministère des Transports continuera également d'ouvrir l'accès au transport dans les régions grâce à l'octroi de subventions de transport pionnier des routes à péage maritime aux ponts aériens. Selon le ministère des Transports, le gouvernement achèvera le projet de chemin de fer Makassar-Parepare, la construction du port de Tanjung Charat et également l'achèvement de la deuxième phase du port de Patimban, ainsi que plusieurs aéroports à Sulawesi et Kalimantan qui sont de préoccupation. Le ministère des Transports a également déclaré que le gouvernement n'avait pas pleinement utilisé le budget de recettes et de dépenses de l'État, APBN, dans la mise en œuvre de ces programmes. En raison des limites budgétaires du budget de l'État, le gouvernement encourage la mise en œuvre de programmes de financement créatif à la fois par le biais de la collaboration avec les entreprises publiques et le secteur privé. Un certain nombre de stratégies seront mises en œuvre, à savoir l'optimisation de l'application du financement créatif non APBN par le biais de la coopération entre le gouvernement et les entités commerciales dans le contexte de la satisfaction des besoins en infrastructures de transport, l'optimisation des recettes non fiscales de l'État par le biais de l'agence de services publics en tant que source de financement alternative pour accélérer le développement des infrastructures. En outre, le gouvernement encourage également l'implication du secteur privé dans l'accélération de la croissance économique nationale et la réalisation de la transformation structurelle et de la numérisation dans le but d'améliorer les services de transport. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Manisnya senyumanmu membekas dalam kalbu. Kini ku rasa ku telah jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersayang. Itu kamu di dalam hatiku. Hanya kamu bidadari surgaku. Oh, maukah kamu menjadi pendamping dalam hidupku yang akan selalu temani hidupku ini, dan kan ku berikan semua taman surga. Jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersayang. Itu kamu di dalam hatiku.
Kan ku berikan taman surga di dunia.
Bon d'accord, chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez, cette chanson? C'était belle? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Ce jour, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission Magazine Culturel. Et cette fois nous vous présentons le parc naturel de la montagne de Tunak. Vous êtes avec moi Audrey. Chers auditeurs, Lombok est l'une des destinations préférées des touristes étrangers lors de leur visite en Indonésie. Lombok a une attraction touristique complète à l'un des plages, des montagnes, des cascades, des lacs et autres. Cette fois, nous vous présentons l'une des attractions touristiques de Lombok qui offre une beauté naturelle à travers une composition soignée entre la plage, les falaises vallonnées et la mer bleue. Le nom est Gunung Tunak Nature Tourism Park, TWA. L'emplacement est dans le village de Mertak, le district de Puyut dans la région centrale de Lombok, à Nusa Tenggara occidentale. Pour le visiter, vous pouvez utiliser la route vers la plage Kuta de Lombok, qui se trouve à environ 50 km de Mataram. De la plage de Kuta, la distance de ce parc touristique naturel est encore d'environ 16 km. Pour profiter de la belle vue sur le mont Tunak, TWA, vous devez payer un billet d'entrée d'environ 10 000 roupies par personne. D'une superficie de 1200 hectares, la TWA de Gunung Tunak est formée d'une rangée de collines, à savoir la colline de Bungkulan, la colline de Kelor, la colline de Takar Akar, la colline de Pejanggik et la colline de Batu Jangkar, qui s'est bordée par la baie de Bumbang au nord-ouest et Awang Bay à l'est. Sur terre s'étendaient de vastes plaines et de forêts de plaines. Jusqu'à présent, les plages et les spots et des zones vallonnées ouvertes sont les plus populaires. En plus de plusieurs espaces ouverts dans les collines, si vous souhaitez profiter librement de la nature, vous pouvez monter jusqu'au phare à ce niveau. Du haut du phare, vous pouvez voir une étendue de beauté qui combine la mer bleue, les collines, les plages et la formation d'îlots rocheux. De plus, cet endroit est idéal pour les amateurs de photographie. Outre la marche de longue de la plage ou la randonnée à travers la forêt et les collines, de nombreuses activités peuvent être pratiquées à TWA Gunung Tunak. Vous pouvez pêcher, nager ou vous détendre sur la plage. Ou si vous voulez passer la nuit, vous pouvez installer une tente. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être être témoin de la tradition de la communauté locale appelée Betunak, qui consiste à emmener des buffles à relâcher dans la forêt, les marais et la savane. À TWA Gunung Tunak, des installations telles que des toilettes et des belvédères ont été aménagées à plusieurs endroits. Il existe également des hébergements sous forme de cottage sur la plage de Bumbangku. Bon, chers auditeurs, c'est tout le magazine culturel.
takkan pernah ku tinggalkan kau sendiri. Tersenyumlah agar ku tahu kau bahagia bersamaku. Bernyanyilah, ku ingin dengar suara indahmu itu. Dengar aku, mengertilah aku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan. That when I say I love you, I really do. You know I really, really do. Suara indahmu itu. Jangan kau ragu, mengertilah ku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan. I really do. You know I really, really do. Ku hanya ingin kau untuk percaya, ini bukan sekedar kata-kata. Ku hanya harap kau juga merasa. Oh, rasa cinta yang sama. You know I really, really do. Oh, no, no. Ku hanya ingin kau untuk percaya, ini bukan sekedar kata-kata. Cinta yang sama. Sorry.
Voilà, chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'Indonésie en couleur, intitulé « Maintenir la fraîcheur des fruits, BRN créer une solution d'enrobage à partir des produits dérivés d'huile de palme ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chaque jour, le Centre de recherche agro-industrielle, organisme de recherche agricole et alimentaire de l'Agence nationale de la recherche et de l'innovation, BRIN, crée une solution d'enrobage de fruits à partir de produits dérivés d'huile de palme. La solution d'enrobage a été développée pour prolonger la durée de conservation et la fraîcheur des fruits. L'Indonésie est l'un des plus grands producteurs d'huile de palme au monde, où la plupart de ses produits sont exportés sous forme d'huile de palme brute, CPO. Le chef de la division des programmes de l'Agence de gestion du fonds pour les plantations d'huile de palme, BPDPKS, a expliqué Arfi Tahar, avec le nombre croissant des produits dérivés du palmier qui sont utilisés, la valeur ajoutée des fruits sera de plus en plus appréciée par les Indonésiens. Pendant ce temps, le chef de l'Organisation de recherche agricole et alimentaire, ORPP-BRIN, Puji Lestari, a fait part des recherches liées aux solutions d'enrobage des fruits à partir de dérivés de palmiers, encourageant à programmer des activités de recherche sur le palmier à l'huile à partir des étapes à la ferme et hors de la ferme. Son parti impliquera également tous les centres de recherche de l'ORPP-BRIN pour soutenir la recherche. En accord avec lui, l'adjoint à la recherche et à l'utilisation de l'innovation, Endrian, soutient également les activités menées par les chercheurs du centre de recherche en agro-industrie. Il espère que l'application de revêtements pourra être utilisé pour la communauté, ainsi que par les acteurs du secteur des fruits pour élargir le marché afin qu'ils puissent augmenter les exportations et les devises. Adjoint à la recherche et à l'utilisation de l'innovation, Endrian soutient également les activités menées par les chercheurs du Centre de recherche en agro-industrie. Il espère que l'application de revêtements pourra être utilisée par la communauté, ainsi que par les acteurs du secteur des fruits, pour élargir le marché afin qu'ils puissent augmenter les exportations et les devises. La raison en est que le fruit est un produit alimentaire qui est facilement endommagé ou pourri. Les dommages ou la pourriture des fruits peuvent survenir en raison de processus naturels ou de processus de manipulation post-récolte inappropriés. L'un des avantages de cette solution de revêtement dérivé de la palme est qu'elle est moins chère que les solutions de revêtement similaires utilisées jusqu'à présent, qui sont fabriquées à partir de cire d'abeille. Le prix du revêtement est moins cher, car les ingrédients de base sont formulés à partir de dérivés d'huile de palme largement disponibles en Indonésie. BRIN garantit également que la solution d'enrobage de fruits à base d'huile de palme est sans danger pour la consommation. Bonjour Jutard, c'est tout l'Indonésie en couleur.
Perjuangkan harga dirimu dan raihlah cintamu dengan tekad kita bisa. Kita kuat, kita hebat. Aku kamu, kita istimewa. Kita kuat, kita semua. Bangkit kembali meraih mimpi. Kesalahan, kegagalan hidupmu jadikan pelajaran yang berharga.
kita istimewa, kita kuat, kita semua hebat. Bangkit kembali, meraih mimpi.
Bon, d'accord, chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Alors, c'était belle la chanson? Vous aimez? Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Aceh intitulée Salam. Chers auditeurs, Salam est une langue d'Aceh qui signifie salutation. Cette chanson est une chanson de bienvenue pour les invités qui viennent à Aceh, ce qui signifie prière, sécurité, convivialité et courtoisie des habitants d'Aceh envers quiconque vient dans leur région. Bon, chers auditeurs, voici Orang Utan Squad va chanter une chanson d'Aceh intitulée Salam. Bonne écoute.
Kubain babot kakal tanda pulau mataku mika kau aku rata nak undau tanda kuito adat budaya tak sadar kata ini mesemboyan ta bisa pakai nerak dal di tanah seram di Mekah rendah hati kau dia ulang lain amarah salamku kita jaga tali persaudaraan tak sampai ke salam bumi daerah tak sadar kata salam tegur sapaku untuk semua umat dalam lagu ini ku persembahkan sebagai rasa hormat untuk mengingatkan untuk akrabkan agar ikatan lebih erat dengan jamuan teh dan kopi tu buat suasana hangat adat pemulia jamin sebagai simbolis silaturahmi syair salam sebagai pembuka penuh hormatan dari kami semoga dengan lagu ini pesan kami dapat dipahami maaf apabila salah sekian kami mengakhiri
assalamualaikum
Bonjour, chers auditeurs et auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia, et joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voiceindonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web, www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.